Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va revenir sur les résultats charentais du week-end, un week-end chargé avec du foot, du rugby, du handball, du basket et même les 10 km d'Angoulême. Donc on va aborder ce programme très chargé ensemble. On va commencer par la CFC, qui se déplaçait à Bergerac vendredi soir pour son championnat de National 2. C'est un match au sommet pour les Angoumoisins qui se déplaçait chez le deuxième. Angoulême était quatrième et malheureusement la formation de David Gigel s'est inclinée 2-0. Un but dans chaque mi-temps puisque c'est Freddy Colombo pour Bergerac qui ouvre le score sur coup franc dans les 20 premières minutes. Et malheureusement, deuxième mi-temps, Paul Maisonneuve permet à Bergerac de mener et de l'emporter 2-0. Une défaite pour la CFC, la première depuis le mois de janvier. Et c'est deux défaites obtenues en Dordogne. Donc heureusement pour les Angoumoisins, il n'y a plus de déplacement en Dordogne. Au niveau des autres résultats de cette poule de National 2, les Herbiers et Andrézieux ont fait match nul 1 partout. Gaul a battu Trélissac 5-1. Vierzon a battu Bourges 2-1. Nantes est allé gagner à Angers 2-1. Saumur est allé gagner à Chamalières 1-0. Romorantin est allé gagner à Moulins-Isère 1-0. Et enfin, match nul entre le Stade Bordelais et Lorient 2 partout. Un championnat de National 2 morcelé en 3 parties. D'un côté, on a les 3 premiers, les Herbiers, Bergerac et Gaul, qui se tiennent en 2 points. D'un côté, on a les 3 derniers, Stade Bordelais, Moulins-Isère et Vierzon, pour qui la course au maintien s'annonce très compliquée. Et puis, on a le ventre mou du championnat, du 4e au 13e. Qui se tiennent en seulement 6 points. Toutes ces équipes-là sont bien sûr concernées par la course au maintien, puisqu'on rappelle que dans ce groupe de plusieurs équipes, il y aura donc 2 voire 3 descentes. Donc les Angoumoisins maintenant auront pour objectif de se maintenir. Angoulême donc qui perd 2 places ce week-end et qui se retrouve 6e à égalité avec le 4e. Et donc la CFC compte désormais 4 points d'avance sur Andrézieux, le premier relégable. Prochain match pour les Angoumoisins dans 15 jours, déplacement au FC Nantes, à la réserve du FC Nantes. Un match hyper important puisque Nantes est 13e avec 6 points de retard. Donc pour les Angoumoisins, une victoire permettrait de reprendre 9 points d'avance sur les Nantais et 9 points d'avance à 6 journées de la fin. Eh bien, l'opération serait plutôt bonne. En Régional 1, soirée cauchemar malheureusement pour Cognac. Cognac qui s'est incliné 6-1 du côté de Fétia. Malheureusement, les hommes d'Alvin Henry ont pris 3 cartons rouges sur cette rencontre. Donc, c'était vraiment compliqué de jouer à 8 contre 11 la majeure partie du match. La réserve de la CFC, quant à elle, recevait hier dimanche son homologue de Trélissac. Victoire 1-0, but de Lucas Métavant. Une victoire qui permet aux Angoumoisins de faire un grand pas vers le maintien, puisque Angoulême compte 10 points d'avance, notamment sur Hill et sur Cognac. Le championnat toujours dominé par Brive, qui a pris de l'avance sur le Mérignac SA. Donc les brévistes sont bien partis pour monter en Régional 3. La réserve de la CFC est 7e avec 30 points et Cognac est 10e avec 20 points. En Régional 2 en poule A, match nul de Leroy à domicile contre Nintré, 0-0. Au classement, Leroy est toujours sur le podium, 3e, sur une poule dominée par la réserve de Chauvigny. En poule B, défaite de Charente-Limousine à l'Étoile Maritime, 2-0. En revanche, victoire de Merpin 3-0 du côté de la Rétez et défaite de Cognac 5-1 à Mignalou-Beauvoir. La réserve de Cognac est donc officiellement rétrogradée en Régional 3. Pour les autres Charentais, Charente-Limousine est 4e avec 27 points et Merpin est 8e avec 23 points. L'opération maintien se poursuit pour Merpin qui petit à petit remonte sur le peloton puisque Merpin finalement n'est qu'à 4 points du 4e. Enfin en poule D, l'expo du week-end, et il est pour Jarnac. Jarnac qui bat la Bouscatèze. Donc c'était un choc entre l'avant-dernier Charentais et le leader. Victoire donc de Jarnac 3-2. La veille, Sireuil avait gagné à Sainte 3-0. Deuxième victoire consécutive pour Sireuil. Si bien qu'au classement, Sireuil est 7e avec 25 points. Et Jarnac est 11e avec 19 points. Jarnac compte 5 points de retard sur le 9e et 8e. Ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas surfer sur cet exploit pour faire une série de victoires. En Régional 3, défaite de Confolens à nouveau à domicile, c'est la 3e de suite malheureusement. Défaite de Confolens contre la réserve d'Aix-sur-Vienne 3-2. Ruffec se déplaçait à Limoges, à Saint-Lazare pour le match au sommet. Et match nul donc un partout des Ruffecois. Face à Limoges, au classement, c'est Noyer qui prend la tête de la poule avec 42 points. Le Ruffec est troisième, 35 points. Et Confolens, mine de rien, avec ses trois défaites de suite, commence à perdre du terrain. Confolens est septième avec 20 points. Et finalement, on ne compte que 2 points d'avance sur Bessines-Morterolles qui est neuvième. Donc malheureusement, la course au maintien se poursuit pour Confolens. En poule F, félicitations à Saint-Aix. Saint-Aix qui, malgré son match nul de partout contre Puymoyen, eh bien, Saint-Aix profite de la défaite de Coulommiers-Chamiers à La Roche-Rivière pour être champion de Régional 3. Donc bravo à Mickaël Ruiz et bravo à ses joueurs qui sont champions de Régional 3. Les autres résultats de cette poule F avec la victoire de Vindel 3-2 contre Ruel et la victoire 4-0 de Soyo à Thénon Limera. Au classement, donc Saint-Aix est premier avec 47 points, c'est 14 points d'avance sur Coulommiers-Chamiers, mais vu qu'il ne reste plus que 4 matchs à jouer, 4 x 3, 12, eh bien Saint-Aix ne peut plus être rejoint, donc l'Acier va fêter sa deuxième montée consécutive après une montée de D1 en R3, c'est la montée de R3 en R2, donc félicitations aux Arédiens pour cette belle montée. Les autres Charentais dans cette poule, donc Soyo est 5e avec 29 points, Vindel est 6e avec 28 points, La Roche-Rivière est 7e avec 24 points, 8e Puymoyen 21 points, et donc le seul relégable Charentais en R3, c'est Ruel avec 16 points. En poule F, défaite de la Lance 3B, la première défaite de la saison, défaite 1-0 à Mata. L'Alliance 3B est toujours en tête avec 47 points. C'est 11 points d'avance sur Richard, mais l'Alliance 3B n'est pas encore officiellement, mathématiquement, champion de R3. En première division district, je vais donner les scores de ce week-end avec le match entre Moutier et Mertin 1 partout. La victoire de Champigny contre le Roi 2-1. La victoire de Saint-Michel dans les derniers instants à Basso 3-2. La victoire de Brigue contre l'Alliance 3B 1-0. La victoire de Lessac 3-1 contre les Portugais du Gond. Et la victoire très importante de la Couronne contre Roulé 3-2 dans un match hyper important en vue du maintien au classement. Deux équipes en tête, Saint-Michel et Champigny avec 36 points. Basso est désormais à 3 points. En troisième position, en bas de tableau, belle opération pour la Couronne et pour qui prend le large par rapport à Roulé et par rapport au Portugais du Gond. Ces deux équipes sont dernières et semblent un peu décrochées. En deuxième division, Saint-Aix et Mansle font 2 partout. Chasseneuil bat Verdi 2-1. Bel-Air bat La Roche-Rivière 4-2. Sireuil s'impose à Aigre 6-3. Ruffec bat Montbron 2-1. Et Charente-Limousine et Mornac font 2 partout au classement. Sireuil est en tête. Sireuil qui renoue avec la victoire après quelques week-ends de plus compliqués. Sireuil est en tête avec 2 points d'avance sur Chasseneuil, mais Sireuil possède un match en retard. Troisième Bel-Air avec 27 points. En poule B, match nul entre Montmoreau et Chazelles 3 partout. Victoire de Linard à Nersac 2-1. Victoire de Saint-Séverin contre Châteauneuf 4-2. Victoire, et après ça n'était que des matchs nuls. Match nul entre Ruel et Champigny 1 partout. Match nul entre Grande Champagne et Jarnac 0-0. Et match nul entre Saint-Brice et Sud-Charente 2 partout. Au classement, Linard est toujours en tête avec 43 points. Deuxième, Jarnac 38 points. Troisième, Grande Champagne 36 points. On va parler maintenant de football féminin avec la Gisoyo qui recevait Montpellier. C'était samedi après-midi au Stade Lebon. Malheureusement, défaite de la J 5-1. 25 bonnes premières minutes pour Soyo, mais malheureusement Montpellier marque 2 buts avant la mi-temps. But de Peterman et de Dombrovska, la Slovaque. En deuxième mi-temps, Soyo réduit la marque par Comé au bout de 30 secondes de jeu. Et malheureusement, en fin de match, le doublé de Mondésir et le pénalty de Charlotte Bilbao permettent à Montpellier et vient de s'imposer au Stade Lebon. Une défaite lourde de conséquences pour les Sojalviciennes. On était d'ailleurs dans les vestiaires à l'issue du match avec Michel Bradaya, l'entraîneur de Soyo. On l'écoute tout de suite.
Bon Michel, défaite malheureusement 5-1 contre Montpellier. Il y a pourtant eu une première demi-heure de qualité. Vous avez récupéré les ballons haut avec un gros pressing et malheureusement Montpellier marque pratiquement sur ses deux premières occasions en première mi-temps.
Oui, ça après on a dit. Ils sont allés chercher aussi la possibilité de nous presser haut, de récupérer des ballons haut avec un petit peu de réussite sur le deuxième but, mais bon voilà, il y a deux buts qui sont valides et ça nous a mis dessus en difficulté. C'est vrai que c'est compliqué.
Malgré tout, retour des vestiaires, vous marquez au bout de 30 secondes, ce qui vous permet de reprendre de l'espoir.
Ah oui, complètement, on marque un but bien construit, un décalage, une frappe, côté fermé du gardien, de la gardienne, donc c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite, voilà, il y a de l'espoir. Et derrière on a deux alertes. peuvent marquer deux fois, Montpellier marque pas. Je disais à Tom hein, qui a repris un peu le cours des choses depuis quelques temps, hein, on espérait avoir un déclic, des filles, donc en accord avec la direction, je laisse le faire un petit peu et on voit que ça a du mal. Donc effectivement, je dis, il y a deux alertes, c'est ces deux alertes là, on s'est pas réveillé et on prend ce troisième but là qui arrive parce qu'on est pressé haut et voilà, et on joue trop vers l'arrière. Donc voilà, le troisième but est arrivé comme ça malheureusement, et puis la suite, et ben vous l'avez vu, donc après c'est compliqué hein.
Oui, malgré tout vos bonnes intentions de jeu n'ont pas forcément payé.
Non, les bonnes intentions de jeu n'ont pas payé, c'était compliqué. Donc voilà, en face, ils sont pas venus avec une équipe type, mais voilà, c'est consistant, hein. Faut pas, c'est Montpellier, voilà. C'est techniquement bien plus solide. Voilà, je parle même pas de la tactique parce que c'est bien plus solide quand même. Et puis voilà, ça joue au ballon et puis c'est intéressant. En fait, nous c'est compliqué, on le sait depuis un moment maintenant, pour en venir dessus. Donc voilà.
Et pour vous, est-ce que le fait d'avoir joué le bon, ça change un peu votre approche du match au niveau de la préparation?
Non.
Par rapport au fait de changer
bon,
de terrain notamment.
Le bon, je connaissais, je suis venu ici avec Laurent Cuiseau. Hein.
Ah oui,
je me rappelle pour la petite histoire, parce qu'on avait gagné 2-0, j'avais mis un doublé. J'étais monté en Ligue 2 et ça me fait plaisir d'être de revenir là. Mais je trouve que ce terrain-là est approprié pour un jeu de qualité, contrairement à Léo Lagrange qui est un petit peu en pente, qui déterre rapidement. Ici, on est quand même dans des conditions avec. Voilà, il y a des tribunes de part et d'autre. Je trouve vraiment que c'est une ambiance plus football pour moi. Hein. C'est mon avis, chacun a son avis. Moi, j'aime bien. Donc, oui, effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire plus de matchs ici.
Les autres résultats de cette D1, Reims qui bat Rodez 2-1, Paris FC et Guingamp 2 partout. Donc, Soyeaux s'incline contre Montpellier 5-1, victoire de Fleury 1-0 contre Dijon, victoire du Paris Saint-Germain 1-0 contre Bordeaux et victoire de Lyon 7-0 au Havre. Toujours Lyon en tête avec 49 points, deuxième Paris Saint-Germain 48 points. Soyeaux est toujours lanterne rouge avec 6 points, c'est toujours 6 points de retard sur Dijon. L'écart reste le même, malheureusement les journées passent, donc ça devient de plus en plus compliqué pour les Charentaises. On va rappeler la victoire du SA15 contre Provence Rugby, victoire des hommes de Vincent Etcheto 12-8, une victoire importante pour le maintien, puisque dans le même temps Carcassonne et Montauban l'avaient remporté. Défaite de Cognac 40-22 du côté de Nice, et le maintien pour l'UBJ qui se maintient en Fédéral 1 grâce à sa victoire face à Saint-Médard-en-Jal, victoire sans appel 20-0. L'UBJ assure définitivement son maintien en Fédéral 1. Il y avait beaucoup de monde au stade à Barbezieux, donc c'est une belle victoire pour l'UBJ qui évoluera toujours en Fédéral 1 la saison prochaine. On va parler de handball désormais avec la victoire de l'ETEC 26-25 contre Handaï. L'ETEC est toujours deuxième au classement avec toujours 3 points de retard sur Bruges. En National 1 féminine, défaite de l'ACH. L'ACH qui est restée sur une belle série de victoires. Malheureusement, la série s'est terminée à domicile contre Moucoutan. Défaite 35-31 pour les filles de Mike Bidorini. Dans le même temps, Cognac s'est incliné à Montluçon 27-21. L'ACH reste quatrième au classement avec 42 points. Cognac est 13e. Avec 20 points. En basket féminin, malheureusement, c'était la défaite de trop pour la Couronne Basket. La Couronne Basket, il s'incline à Limoges 68-66. Et malheureusement, il ne reste plus qu'une seule journée en National Pro Féminine. Et la Couronne compte 2 victoires de retard sur Rié et sur Chantonnay. Donc la Couronne terminera 10e de ce classement de National 3. Une 10e place qui, malheureusement, devrait être synonyme, j'emploie le conditionnel, de descente au niveau régional. Justement, au niveau régional chez les hommes, la CTC Grand Cognac recevait le Val-de-Vienne, victoire de la CTC Grand Cognac 88-63. Dans le même temps, Limoges s'est imposé contre Sarre-Gatien 94-76. Limoges est toujours en tête. La CTC Grand Cognac a toujours un match en retard, mais en cas de victoire contre Sarre-Gatien, ils reviendront en tête de ce classement. On va terminer par deux informations. La première, c'était du cyclisme avec deux épreuves de niveau national en Charente. Le prix de Saint-Projet et le tour de la Charente-Limousine. C'était deux épreuves qui ont été dominées par le SCO Dijon. Victoire dimanche, donc hier, à Saint-Projet, victoire de Quentin Beza devant son coéquipier Barrio. La troisième place est revenue à Adam Mitchell, l'anglais, qui l'avait emporté la veille au tour de la Charente-Limousine. Donc les Bourguignons ont fait une razzia en Charente. Et on va terminer par les 10 km d'Angoulême, hein, les fameuses foulées angoumoisines, hein, qui ont été disputées sous un temps compliqué. C'est vrai que samedi, il y avait beaucoup de vent sur Angoulême, il y avait aussi de la pluie. et c'est la victoire de Mathieu Brulé. Mathieu Brulé qui s'impose en 29 minutes et 15 secondes. Et donc le sociétaire de Saint-Junien s'offre le record de l'épreuve. Le record de l'épreuve puisque le tracé avait été modifié il y a quelques années. Donc Mathieu Brulé vainqueur devant le tenant du titre Youssouf Djeldo Gerso. Chez les femmes, doublé Cognacé, puisque Laurie Navigno s'impose devant Tatiana Da Silva. On va tout de suite plonger dans Culture Sport avec l'interview d'Hervé Amonic, le vice-président de l'OFC Ruel. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Culture Sport, sur Attitude, votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com, partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre aussi en Nord-Charente, en réflexe sur le 90.7. Voilà, bienvenue dans Culture Sport, c'est votre émission, chaque lundi 19h-20h30. On va parler de sport, on va parler de football, on va parler de l'Olympique de Ruel. Nous accueillons Hervé Amonic. Hervé, bonjour et bienvenue.
Bonjour Didier, merci pour l'invitation.
De rien, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Donc, on sait qu'on a un emploi du temps serré, ce qu'on peut comprendre. Donc, je laisse à ou Christian ou Dédé le soin de poser la première question.
Bonsoir. Voilà, c'est par hasard, c'est parce que vous étiez déjà dans le club, vous vous êtes investi, je suppose, puisque vous êtes vice-président. Vous êtes venu comment du côté de Ruel?
En fait, je suis venu tout simplement par... Mon père m'a inscrit au foot quand j'avais 6 ans à Ruel. À l'époque, c'était le Svar, hein, je sais pas pour les plus anciens si vous connaissez. Oui. Et j'ai toujours joué à Ruel. J'ai fait une petite infidélité d'un an en tant que joueur et de deux en tant qu'éducateur sur des clubs voisins. Sinon, je suis toujours resté au sein du club. Maintenant, mon fils joue et du coup, de joueur, on passe à dirigeant. De dirigeant, on prend un petit peu plus de responsabilité entre guillemets. Et puis, on finit par être président, vice-président, voilà.
Non, mais je pense que c'était nécessaire, voilà, pour le public ou ceux qui nous écoutent, de savoir un petit peu votre pensée. Donc, un fidèle ruellois, hein, c'est ce qu'on dit.
C'est ça.
Et beaucoup exactement. De gens de la DCM qui jouaient dans le temps. Je crois que la création a été notamment faite au niveau du comité d'établissement de la DCM.
Exactement. En fait, c'était un club qui était. En fait, toutes les sections sportives de Ruel étaient rattachées, dépendaient de la DCM qui s'appelait les Cannes avant. Et puis un jour, ils ont décidé de se séparer des activités sportives. Donc la mairie a repris l'ensemble des activités, des terrains, des infrastructures. Aujourd'hui, la mairie continue d'être notre plus fidèle partenaire. Et heureusement qu'ils sont là.
Bon, je vais laisser la parole à Christian. Mais c'est vrai que là, pour cette année, c'est difficile de... quand on regarde les résultats, peut-être au niveau des jeunes, ça se passe relativement bien, mais au niveau des seniors, un petit peu moins.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, ça se passe juste pas très bien au niveau de l'équipe première. Notre équipe B, notre équipe C font un très bon championnat. Notre équipe B a été éliminée en quart de finale de la Coupe Charente. Je vais pas épiloguer, mais sur un arbitrage un peu difficile et douteux, on va dire.
Les cinquièmes,
ils font tous les deux une bonne saison. Alors pour notre équipe première, je vous rejoins, c'est un petit peu plus compliqué. On savait que ça serait un petit peu plus compliqué cette saison. Pourquoi ? Parce que en fait, on a un effectif assez réduit sur ce groupe R3, et malheureusement d'entrée de saison, on a perdu des joueurs qui étaient importants sur des blessures assez graves. Et on a joué la plupart du temps avec des garçons avec 6 à 7 joueurs moins de 20 ans. Donc avec un éducateur, avec un coach qui est là pour la première année également. Donc c'était très jeune tout ça et c'est compliqué des fois sur des matchs un petit peu en jeu. Voilà, mais c'est pas fini. On espère encore accrocher quelques victoires et puis pourquoi pas se sauver sur les derniers matchs et ça serait de bon augure parce que ça serait une bonne expérience pour tous ces jeunes qui sont déjà en équipe première là. Nous ce qu'on envisage c'est de travailler avec eux sur 2, 3, 4 ans. Donc ça serait, on va croiser les doigts.
Le bilan, c'est 11e avec 16 points. Mais quand on regarde bien, vous êtes qu'à 5 points de la 7e place. Donc,
exactement.
Il n'y a rien de rédhibitoire.
Exactement. On va jouer les matchs les uns après les autres. On va arrêter de regarder ce classement. C'est le message qu'on a fait passer un petit peu. Et arrêtons de se prendre la tête à se dire faut pas perdre. Jouons les matchs. Essayons de faire de notre mieux. Essayons de gratter des points un petit peu à l'extérieur, de faire des victoires à domicile. Et on comptera à la fin. Faut pas, voilà. Et ça, si jamais, dans le pire des cas, on devait descendre, on reconstruira avec nos jeunes et on continuera de travailler pour remonter les années futures.
que j'ai pu remarquer en analysant un petit peu avant l'émission, c'est qu'au niveau de l'attaque, ça marque des buts, mais je pense qu'au niveau de la défense, c'est peut-être le hic, parce que il y a beaucoup de buts qui sont encaissés.
C'est marrant ce que vous dites, parce que déjà c'est la vérité, et surtout on pensait que ça serait le contraire en début de saison.
D'accord.
On pensait qu'on aurait une défense assez forte et on pensait être un petit peu juste en attaque, et en fait les absents dont je vous parlais, ils ont surtout été impactants pour sur le côté défensif. Donc résultat, on a pris beaucoup plus de buts que ce qu'on pensait en début de saison, et quand vous prenez des buts, vous savez, c'est compliqué de gagner des matchs, donc vous avez raison, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est déjà prendre moins de buts.
C'est vrai que quand on voit la fin de saison qui vous attend, c'est une fin de saison contrastée, puisqu'il y a à la fois des matchs contre des concurrents directs, que ce soit La Roche-Rivière ou Vindel de mémoire, et il y a aussi des équipes comme Saint-Ariès-Ribérac qui sont en haut du classement, donc des matchs assez compliqués à venir.
Ouais, exactement. Après, vous savez, depuis le début de l'année, on a perdu donc beaucoup de matchs. On en a perdu beaucoup par un but d'écart souvent.
Notamment contre les trois premiers.
Effectivement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc premier, dernier, vous savez, il n'y a pas un gros écart de en termes de qualité dans cette poule sur les matchs que j'ai pu voir. Il faudra jouer les matchs. Comme je vous dis, jouons les matchs les uns après les autres et puis on fera les comptes à la fin.
D'ailleurs, dans cette poule, beaucoup de Charentais, vous êtes 6, il me semble, de mémoire. Est-ce que c'était plutôt bien ou plutôt pas bien? On sait que parfois, des clubs demandent à changer de poule pour se retrouver peut-être avec moins de Charentais. Vous avez tiré la poule avec le plus de derby, entre guillemets.
Ouais, alors le fait qu'il y ait des derbies, je trouve qu'il y a un côté sympa, parce que... Enfin, en tous les cas, moi, à l'époque où je jouais, c'était sympa, parce qu'à la fin, on se retrouvait, on était content d'avoir joué le match, et on était content de se retrouver, on était en ville, et aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même ambiance, je trouve. On prend plaisir à faire mal à notre voisin Charentais. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nos voisins de Dordogne. J'ai parlé avec le coach de Périgord avant le match, là, il me disait qu'ils avaient créé un groupe WhatsApp entre les coachs de Dordogne et qu'entre eux, ils échangeaient des infos. Je vous le dis, moi, en Charente, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Quoi.
Oui, effectivement. D'ailleurs, le coach de Périgord Centre, qui est bien connu à Angoulême, il s'agit de Rudy Gérard, qui
jouait
à la CFC. Par rapport à la saison dernière, c'est vrai que vous étiez maintenu aussi en deuxième partie de saison. Alors malheureusement du coup la course pour le maintien se joue encore du côté des Drouelles, on espère que l'issue sera la même, mais est-ce que cette R3 justement elle a augmenté par rapport à la de niveau par rapport à la PL d'il y a quelques saisons?
Non, j'ai pas l'impression moi que le niveau il est augmenté. Je pense que surtout on a perdu en qualité sur depuis que la génération R2 est descendue en R3. Là on a perdu beaucoup de joueurs. Et ce virage-là, cette descente, on a eu du mal à la digérer. Et on la digère toujours, quoi, en fait.
Merci de votre fidélité. Christian, les deux sont là pour poser des questions à notre invité, Hervé et Monique. Messieurs, je vous laisse la main.
Si je comprends bien, au regard de, ou à l'écoute de vos premières réponses, au niveau donc de l'équipe senior, j'ai bien compris qu'il y avait des jeunes à l'intérieur de. Ouais. Cette équipe 1, ça veut dire également que derrière, donc il y a une montée qui se profile en équipe B et en équipe C, ça va aussi très bien. Et j'ai vu également que au niveau de la jeunesse, vous aviez notamment un bon et beau vivier dans le 15, du 16.
Exactement. En fait, notre objectif premier. C'est pas de parler que de l'équipe première, quoi. L'équipe première, c'est la vitrine. Effectivement, on a besoin d'avoir une bonne équipe première. Mais on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de travail sur la formation. Donc aujourd'hui, comme vous dites, hein, on a des 14 qui sont en région, des 15 qui sont également donc en capacité de monter en 16 R2, des 17 qui sont montés à mi-saison et qui ont aujourd'hui sont à la lutte pour monter en 18 R1. On avait des 19 R1, donc on a beaucoup d'équipes qui sont en régional. C'est clairement notre objectif en termes de formation, il est là. C'est pouvoir proposer en fait à des jeunes charentais de pouvoir jouer en région systématiquement toutes les années, toute la formation foot à 11. En plus de ça, on essaie de mettre des choses en parallèle. Hein. On leur propose des choses comme... des tournois à l'étranger. Par exemple, on a nos U15 qui vont les jouer à Saloux là prochainement, le week-end du 14, 15, 16 avril. Ils vont aller se frotter à des équipes irlandaises, écossaises, finlandaises.
Où ça tu as dit?
Comment?
Quelle ville tu as dit?
Excuse-moi, à Saloux, à côté de Barcelone.
Ah, à côté de Barcelone, d'accord.
À côté de Barcelone. Ils partent, on a fait partir deux générations, des U10, U11, avec des U15. Donc, ils partent tous ensemble pour jouer, rencontrer déjà notre culture, l'Espagne. Et puis, un autre football en jouant des équipes étrangères. Donc, voilà, on espère que ce sera une belle aventure. Donc, voilà, tout ça pour dire que la formation, c'est important, mais on s'attache aussi à leur faire découvrir d'autres choses. Donc, à travers nos stages, à travers des tournois à l'étranger. On a fait un tournoi à FIFA il n'y a pas longtemps pour mélanger un petit peu les classes d'âge. On propose de l'aide aux devoirs sur les plus petits. Voilà.
Et tout ça, ça permet évidemment de faire un mariage avec tous ces jeunes.
Aujourd'hui, le petit regret qu'on a, mais alors c'est pas un reproche du tout, hein, c'est que nos terrains ils sont dispersés. On a trois terrains sur Ruelle et on en a. L'idéal c'est d'en avoir au moins deux côte à côte pour que les jeunes qui jouent par exemple sur un terrain puissent voir ceux qui jouent sur le terrain d'après, etc., etc. Et que les gens puissent se croiser. Aujourd'hui, c'est pas possible à cause des différences géographiques. Donc, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de créer, c'est de mettre des petites animations en place. Je vous dis à travers les tournois FIFA, ou les tournois à Salou, pour que les jeunes se croisent et puissent se rencontrer, et puis voilà, et rencontrer aussi les seniors, les dirigeants, voilà.
On parle des jeunes, Hervé. Il y a combien d'éducateurs
À Ruel, on a un éducateur diplômé par catégorie. Donc, si on passe des U6, U9, 1, 2, 3, 4. Et 4-8, on a 8 sur les jeunes qui sont diplômés. Et nos 3 éducateurs seniors sont diplômés également.
Ah oui, donc il y a un bel effort du club pour la formation des éducateurs, alors.
Oui, si on veut former des jeunes et leur donner une formation de qualité, la priorité numéro 1, c'est que vos éducateurs soient formés, soient diplômés. Donc tous les ans, il y en a qui vont faire des recyclages, il y en a qui vont faire des formations supplémentaires. On travaille en collaboration avec les personnes du district sur le sujet et ça c'est très bien.
Oui, moi j'aurais forcément parlé de l'équipe réserve puisque c'est l'équipe qui fait un super match, enfin super saison plutôt. Notamment en ce moment, ils ont mis je crois 5 buts à Nersac, ils en ont mis 8 le week-end dernier.
Exactement.
Cette équipe réserve, elle a quelle moyenne d'âge à peu près?
Alors c'est une équipe réserve donc ça peut varier, mais en fait c'est surtout des anciens. Il y a beaucoup d'anciens qui évoluaient en équipe première il y a encore la saison passée ou la saison d'avant et qui est marié avec une partie beaucoup plus jeune, donc des garçons de 35 à 40 ans avec des garçons qui ont entre 18 et 22 ans. Mais la majorité est quand même un petit peu plus âgée.
Ça veut dire que finalement, la réserve est souvent plus jeune que l'équipe Fagnon, parce que c'est des joueurs qu'on prépare à aller jouer au-dessus. Vous, au final, à Ruel, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la réserve qui est plus âgée que l'équipe première en termes de moyenne d'âge.
Cette saison, c'était le cas, parce qu'aussi, on avait une génération qui était en 19-1. Comme on avait les anciens qui voulaient continuer à jouer, on avait fait on n'est pas là pour mettre des gens dehors, hein, ils ont le droit de jouer au football. Donc, on avait conservé nos 18 terrains, on les avait conservés en 19-1. De manière à ce que les 19-1 soient un petit peu le vivier de l'équipe première. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait 6 à 7.
Oui, donc au final, le passage, c'est plus 19-1 première que B première.
C'était un peu l'idée, exactement. Ouais,
d'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle fait un beau parcours, cette équipe réserve. Quart de finale en plus de Coupe de Charente, une coupe que le club avait remportée il y a quelques années, de mémoire.
Exactement.
Il y a peut-être 10 ans, non? Si j'ai pas de bêtises, avec Cédric Picard dans les buts.
Dans ces zones-là, ouais, exactement.
Ouais. Et puis, moi, je voulais forcément aborder avec toi un autre parcours. C'est le parcours en Coupe de France, ça, il y a quelques années, avec une élimination au 6e tour contre Mérignac-Carlac. Il y avait eu des beaux parcours, notamment ce match contre Saint-Arès qui vaut pénalty, les Coqs Rouges Bordeaux. Forcément, d'aller aux Coupes de France, ça marque un club.
Eh ben, alors, je peux en parler parce que j'étais, à ce moment-là, j'étais le coach avec Cédric Picard. On était tous les deux ensemble.
Ouais.
Donc oui, effectivement, c'était une belle année. C'était une année en fait où les dynamiques en fait c'est important dans un club. Et cette année-là, sur la première partie de saison, on avait l'impression qu'on aurait pu jouer contre n'importe qui. On était imbattable. On avait fait une très bonne préparation et les résultats se sont enchaînés. On était rapidement en tête de cette poule de R3. On avait fait donc 6e tour. Contre Mérignac-Carlac à domicile, bon, voilà, ce match-là, il avait été un petit peu, la marche était un petit peu trop haute pour nous, surtout dans les têtes. Alors également sur le terrain, clairement, hein, mais surtout dans les têtes, on était arrivé un petit peu frileux par rapport à ce qu'on était habitué à faire d'habitude. Mais bon, ça restait un bon souvenir.
Oui, et puis autre chose qui a marqué le club, j'ai envie de dire, c'est l'éclairage. C'est vrai qu'avant, du côté du Stade Vaugeline, on jouait les dimanches, et depuis quelques saisons, il y a des matchs le samedi soir en nocturne.
Oui, ça joue le samedi soir, alors jusqu'à cette saison, et je pense que malheureusement, la saison prochaine, avec, avec ces problèmes d'énergie, je pense qu'on va repasser au dimanche, nous aussi.
Au revoir. Qu'est-ce que ça avait changé, grosso modo, pour le club d'avoir cet éclairage et de pouvoir jouer le samedi soir par rapport à avant?
Moi, je trouve que c'était, il y avait un côté sympa de pouvoir jouer le samedi soir. Ça libère du temps pour la famille le dimanche, mine de rien. Là, écoutez, on fera le contraire. On sera en famille le samedi soir et puis on ira sur les terrains le dimanche après-midi. Je sais aussi que les jeunes, mine de rien, ils préfèrent jouer le samedi soir et avoir leur soirée après. Bon, mais ça sera comme ça. On s'adaptera.
Merci de votre fidélité. Christian, les dés sont là pour poser des questions à notre invité Hervé Amonique. Messieurs, je vous laisse la main.
En ce qui concerne l'équipe C, là, je reviens 30 secondes. Ces anciens joueurs, c'est quand même, ça peut être aussi des bons éducateurs pour les jeunes qui sont avec. Et au lieu d'aller dans le sport loisir, ben, ils préfèrent peut-être faire un petit championnat ou un championnat qui est long que de faire du sport loisir le vendredi soir.
Oui, c'est ça. C'est des. En fait, il y a des. Le groupe BC, en fait, je dirais, est très complémentaire. Ça peut être très interchangeable. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en B, commencer. Il n'y a qu'une division d'écart, donc très proche. C'est des gens qui sont au club depuis longtemps, pour la plupart, qui s'investissent dans les manifestations, qui donnent la main effectivement quand il y a besoin d'arbitrer les jeunes, qui ont été parfois éducateurs certains et qui seront peut-être encore demain. Oui, c'est des gens qui sont très actifs dans le club et dont on a besoin, ouais.
Vous avez combien de licenciés dans le club
On a environ 3
jusqu'au senior.
En tant que en joueur, on est à 260-270 à peu près.
Ouais, ce qui est vraiment intéressant à l'observer, c'est que toutes les catégories sont représentées, il n'y a pas de trou générationnel, donc ça c'est vraiment intéressant. Et en plus, en votre seul nom à vous.
Oui, et même on refuse des jeunes en début de saison généralement, hein, parce que notre volonté c'est pas de faire du nombre, mais c'est de si on prend un joueur, mais faut qu'il joue, faut qu'on puisse le faire jouer si on veut le faire si on veut le faire progresser. Donc on bloque les catégories à un certain nombre de joueurs.
Et puis j'imagine que si l'importance de rester en R3, c'est de proposer. Tu parlais tout à l'heure de cheminement de formation, d'essayer de proposer un maximum au niveau régional aux équipes jeunes. Mais la finalité, c'est aussi de rester dans ces poules de ligue pour que ces jeunes puissent jouer au niveau régional également en senior.
Bien sûr, ça je t'apprends rien en te disant que si on forme un jeune de U14 à U18 en région, qu'on lui propose la première division à la fin, quelque part il y a quelque chose où on n'est pas bon, quoi. Donc effectivement, il faudrait qu'on reste en R3. Après, comme je disais, hein, si on doit descendre, on descendra. On s'assera autour d'une table, on verra ce qui n'a pas fonctionné et on travaillera pour que la saison d'après soit.
Oui, on l'a vu avec Saint-Alex qui a fait la remontée directement, qui est plutôt un bon exemple à suivre pour l'occasion.
Oui, c'est un bon exemple. Après, je pense qu'on n'a pas les mêmes moyens que Saint-Alex aussi. Donc voilà.
Enfin, en tout cas, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment formation FC Rouen en équipe première. Il y a beaucoup de joueurs là, qui ont joué chez vous, chez les jeunes. Enfin, pratiquement l'intégralité, ou il y a encore un peu de recrutement de possible, entre guillemets.
Sur tous ceux qui jouent aujourd'hui, ils ont tous fait au moins, ils sont tous là au moins depuis 15-16 ans.
Ah oui. Ouais, c'est bien.
Ouais. Après, il y en a certains qui sont partis, qui sont revenus cette année. On en a deux anciens qui étaient partis, un à Ruffec et un à Roulé, qui sont revenus tous les deux cette année. Un qui était parti sur Mérignac pour des raisons professionnelles, il est revenu cette année pour faire une saison. Il fait des allers-retours tout le week-end, Benjamin Clément. Voilà, c'est des gens qui ont été ici, qui sont partis à un moment donné passer une ou deux saisons eux aussi à l'extérieur, qui sont revenus cette année. Et sur les jeunes, c'est des jeunes qui sont là depuis... au moins 13 ans, 14 ans, 15 ans.
Oui, vous avez raison, je pense que oui, parce que vous avez la relève derrière et le projet à long terme va payer.
On le souhaite, sauf que il faut pas que nos jeunes répondent aux petits coups de fil à droite à gauche, aux petites sollicitations des clubs alentours, quoi. Et c'est ce qui est et souvent tous les ans on est pénalisé par ça.
Bien sûr. Ça, on comprend, c'est pas facile. Et les jeunes, quand on parle de jeunes, là, ils sont Rouen-Loire ou ils sont d'à côté, de Mornac?
Alors, on a regardé il y a pas longtemps. On a on a 35 à 40% de joueurs qui sont Ruellois, qui sont sur la commune de Ruel. Et après, effectivement, Mornac, Magnac, Lille des Pagnac, Champniers, voilà.
C'est autour.
Ouais, toute la couronne nord du Grand Angoulême, au final.
Ouais, c'est vraiment proche de chez nous. Il hein. y en a très peu qui viennent côté la couronne ou autre. Il y en a très peu, en fait. C'est 90%, c'est sur les 4-5 communes que je viens de vous citer, là.
Les parents vous suivent, les parents vous suivent, et au nombre de dirigeants, qui fait quoi dans le club?
Alors, les parents, ils nous suivent, franchement, oui, jusqu'à... Mais je pense que ça doit être un petit peu partout. Hein.
Ouais, jusqu'à
17 ans, à peu près. Il y a beaucoup de parents. Passé 17-18 ans, on n'a plus personne. Cette année, on a vécu une équipe en 19-1. On a été obligé de faire un forfait une fois parce qu'il n'y avait personne pour emmener les gamins en dehors du coach, quoi. Pas un papa qui est capable de se libérer. Notre coach a des fois été obligé de faire et éducateur et arbitre de touche. Il n'y a pas un papa qui vient. Donc c'était compliqué cette année à gérer. Et on parle de 19-1, on parle pas de 16 districts hein, ou 15 districts. Donc ça, c'était un petit peu dommage, quoi. Mais sinon, ouais, les parents sont très investis. Ouais, sur beaucoup de manifestations, on arrive à avoir du monde.
Qu'est-ce qui les freine, ces parents, tu penses, c'est les kilomètres? Parce que forcément, 19-1, donc les déplacements sont interdépartementaux. Ou alors, du coup, peut-être que le petit frère joue en dessous en U11, U12, et on préfère suivre le petit frère. Enfin, quelles sont les causes?
Je pense que c'est surtout, plutôt ça, ouais, plutôt le petit frère ou la petite sœur, parce que, quand tu joues en 14-R2, t'as les mêmes déplacements que quand tu joues en 19-1, en exagérant. C'est la région bordelaise, c'est Poitiers, c'est La Rochelle. Dans les deux cas, c'est la même chose. Donc non, c'est les parents petit à petit qui lâchent, et puis les enfants aussi peut-être qui ont pas envie d'avoir papa et maman sur le dos. Je sais pas, mais en tous les cas, on voit au fil des années que ça le nombre de parents réduit. Ouais.
Vous nous suivez donc pour votre émission Culture Sport, chacun dit 19h-20h30. Dédé est là, donc Christian est là. Merci de votre présence et de votre professionnalisme, messieurs. Hervé Amonic, vice-président de l'Olympique Rouennais, est là aussi. Messieurs, je vous cède la parole.
Oui, Hervé, quand vous dites petit frère, petite sœur, ce qui veut dire que vous avez aussi des jeunes filles qui sont susceptibles de jouer.
Alors, on essaye. C'est quelque chose qu'on essaie de développer depuis déjà 3, 4, 5 ans, et on a beaucoup de mal à avoir des filles dans le club. Donc on arrive à avoir une fille par-ci par-là, en fait, selon les catégories, et souvent, en fait, elles sont happées par Soyo ou par la CFC, qui sont des clubs qui sont bien structurés au niveau des féminines, et plutôt que de se retrouver qu'avec des garçons ici, elles préfèrent partir, ce que je comprends. Donc nous, on essaye clairement il nous faut absolument une équipe féminine sur les petites pour pouvoir garder les labels, parce que malheureusement on perdrait notre label jeune si on n'avait pas d'équipe féminine l'année prochaine.
Quels sont les leviers là-dessus, Hervé? Est-ce que vous avez des pistes pour pouvoir recruter des jeunes filles?
On a lancé des actions cette année encore. Donc on a un jeune qui est en BMF apprentissage chez nous et qui a lancé une activité périscolaire avec les écoles de Ruel et également dans le cadre de sa formation avec les écoles de Mornac. Donc il va sur place, il fait découvrir l'activité foot à l'ensemble des élèves, mais il essaie de sensibiliser particulièrement les jeunes filles pour la saison prochaine. Donc voilà.
Oui, en fait, ça passe par des transferts et des transversales entre les établissements d'enseignement public et les clubs de foot, c'est ça?
Exactement, exactement.
Oui, parce que c'est vrai qu'Hervé parlait du fait qu'il fallait une équipe féminine pour garder ce label. Les labels donc jeunes de la Fédération Française de Football. Moi, j'ai l'impression que ces labels, ils sont de plus en plus compliqués à conserver ou à avoir. Et je sais pas trop si c'est ton sentiment également.
Moi, ce que je trouve dommage, surtout, c'est que ils sont prêts à occulter tout ce qu'on fait sur les garçons, alors que au départ, on a un club de foot, c'est les garçons. C'est pas moi qui l'invente. C'est depuis des années, le foot, c'est des garçons. Et tout ce qu'on fait sur la partie garçon, qui est plutôt structuré avec toutes les activités qu'on met en place, c'est occulté juste parce qu'on n'est pas capable de présenter une équipe de 5 filles. Et ça, je trouve ça brutal, quoi.
C'est des labels qui se renouvellent tous les combien de tirs?
3 ans.
Tous les 3 ans, ouais. Donc ça veut dire qu'il reste encore quelques temps avant que le label se termine.
Il nous reste l'année prochaine.
D'accord.
Oui, je pense que ce qui est compliqué également, c'est que on parle de Rouen, mais c'est qu'il y a pas mal d'activités, notamment qui se déroulent en salle, en SIFOP. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des féminines elle joue au foot. Il y a tellement de disciplines à Rouen.
Oui, oui, c'est vrai qu'à Rouen, il y a beaucoup de choix. Donc, il y a le hand, le basket, tir à l'arc, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc, ouais.
Les parents, pas les parents, mais je m'excuse, j'avais pas terminé ma question tout à l'heure sur les dirigeants. Ça demande un certain nombre de dirigeants quand on a autant d'équipes jeunes et seniors.
Oui. Nous, clairement, donc notre discours hein, tous les ans, c'est implication des parents sur les équipes. Le club fournit un éducateur diplômé. Il faut que les parents se prennent en main aussi et viennent pas juste déposer leur enfant. Donc, on fait des réunions en début de saison en expliquant notre philosophie, donc ce qu'on va mettre en place, comment fonctionnent les entraînements, comment l'attitude attendue si jamais votre gamin est remplaçant ou remplacé, parce qu'il faut aussi expliquer ça. On essaie de faire signer un papier. Voilà, on s'engage, on s'est dit les choses, tout le monde est d'accord aujourd'hui, donc on signe un papier.
Une sorte de charte de bonne conduite.
Exactement. C'est un peu avant, c'était juste on se tapait dans la main, mais aujourd'hui on essaie de faire signer une petite charte parce que quand on se le dit, bah, tout le monde est d'accord, mais le jour où l'enfant est remplaçant, bah, c'est plus forcément le cas. Donc comme on a déjà pu vérifier ça dans le passé, aujourd'hui on essaie de faire signer une petite charte, d'expliquer en début de saison, et on demande aux parents de s'investir parce qu'en fait. Quand on se connaît, bah, c'est plus facile de régler les petits soucis qu'il peut y avoir plutôt que de poser le gamin et venir juste quand ça va pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on a quand même du monde jusqu'aux 17-18 ans parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 4-5 ans. Et je pense que ces gens-là, on a réussi à les fédérer. Ça se faisait pas forcément avant, donc voilà. J'espère que au fil des années, on continuera d'avoir des parents avec nous. De toute façon, on en a besoin d'eux. On a clairement besoin.
Comme eux, ils ont besoin de vous.
Oui, oui, ça je sais. Mais eux, je sais, il faut. Il faut aussi leur dire qu'on a besoin d'eux, il faut qu'ils le sachent, qu'ils l'entendent.
Bien sûr. Il y a combien de dirigeants et vous avez un conseil d'administration et après, ouais. Comment vous organisez vos manifestations et vos rendez-vous?
Alors donc, nous aujourd'hui on est structuré avec un président qui est Philippe Mathieu et trois vice-présidents. Donc moi qui suis en charge du sportif, Jean-Philippe Michaud qui s'occupe du sponsoring. Et Sylvain Léonard qui est responsable de l'intendance. Donc chacun sa mission, si vous voulez. Et chaque fois qu'une manifestation est mise en place, eh bien on sollicite selon la manifestation, tous les dirigeants qui sont dans le club sont sollicités, et également des joueurs selon ce que c'est ou des parents selon ce que c'est. Voilà. Là typiquement on a une manifestation samedi prochain. J'en profite. Le 8 avril, on a la finale du championnat de France de foot béquille. A priori, on aurait trois équipes qui devraient venir. Cernex, l'Olympique Jouy-le-Moutier et Andoum. Donc, Jouy-le-Moutier, c'est à côté de Paris, Andoum à côté de Marseille, Cernex à côté de Annecy. Ces trois équipes donc vont faire une triangulaire sur donc samedi 8 avril. Et le vainqueur de cette triangulaire sera le vainqueur du championnat. Il représentera la France en Champions League l'année prochaine en foot béquille. Donc c'est pas rien. Donc pourquoi on fait ça ici? Parce que nous on essaie de créer une équipe de foot béquille depuis 3-4-5 mois là à peu près. On serait les premiers à le faire en Nouvelle-Aquitaine. Donc on fait ça pour essayer de faire découvrir l'activité sur la ligue. On a alerté les médias. Il y a le magazine Vestiaire par exemple que vous connaissez certainement qui va passer la journée avec nous. Il y a LFNA TV qui devrait passer la journée avec nous et puis les quotidiens style Charente Libre et autres. Qui devraient venir également. Donc là, beaucoup de dirigeants seront sur place pour nous aider.
Oui, mais c'est Philippe Mathieu qui nous avait parlé de l'an dernier quand on l'avait reçu de cette activité. Alors, foot béquille, foot amputé, je sais pas ce qu'est le terme exact. Et c'est vrai qu'un joueur l'avait sollicité et que parce que sinon les joueurs devaient aller sur Nantes de mémoire.
Exactement, exactement.
Donc c'est un projet qui est toujours en cours du coup à Rebelle.
Toute la saison, en fait, on a mis un éducateur en place, un éducateur diplômé, un BMF, qui gère ses garçons. Ils font un entraînement minimum par mois sur la journée du samedi. On a créé un partenariat avec un monsieur qui s'appelle Christian Bale, qui est connu dans le monde aussi de l'athlétisme. Il a fait les JO d'Atlanta, paralympique. Il a une salle de muscu, on va dire, à Château-Bernard. Donc le matin, souvent, les garçons partent ensemble avec le minibus du club à Château-Bernard. Ils vont faire de la muscu avec Christian. Et l'après-midi, ils reviennent sur Ruel et font un travail plus spécifique football. Donc soit en salle selon le temps, soit sur le terrain avec Guillaume Marcombe qui est l'éducateur de cette cette catégorie. Nous aujourd'hui on est 6-7 joueurs, il en faudrait entre 12 et 15 pour pouvoir vraiment s'inscrire l'année prochaine en championnat.
Ah, c'était justement ma prochaine question. Donc il vous manque grosso modo la moitié des joueurs pour pouvoir valider une inscription.
Ouais, à peu près c'est ce qu'il nous faudrait. Il nous faudrait ça et puis après ce qu'il nous faudrait, parce que c'est le nerf de la guerre dans toutes les associations, c'est des financements, parce que aujourd'hui il y a que 4-5 équipes en France.
Le moindre déplacement, je vous dis, c'est des sacrés déplacements.
Exactement, le moindre déplacement c'est Paris, c'est Marseille, c'est Annecy. Les garçons ils viennent certains de Bordeaux, de la région Aquitaine, donc ça leur fait aussi des déplacements. Donc je trouve que ça serait bien qu'on arrive à trouver des financements pour leur permettre de jouer au foot, de participer un petit peu de reprendre une vie un peu normale, sportive en tous les cas pour eux, quoi.
Oui, puis c'est vrai que d'avoir la seule équipe foot amputée de la Nouvelle-Aquitaine, on sait que la région est grande, à mon sens un peu trop, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel. Ça serait aussi finalement le fait d'avoir une équipe en Nouvelle-Aquitaine et d'être la seule, ça ferait de vous un point central pour cette activité.
Exactement, c'est pour ça qu'on s'est lancé en fait. On s'est dit en partant les premiers, ça nous permettrait peut-être en fait, si on reprend un petit peu nos erreurs passées, c'est avec les filles, on a commencé trop tard. Clairement, on s'est laissé dépasser par des clubs alentours. Donc on s'est dit, là l'opportunité se présente. La personne qui était venue nous présenter le projet, on a été touché par ce projet. Quand on l'a présenté au bureau, tout le monde a dit oui rapidement. Donc on s'est dit, on se laisse pendant un an, voire deux ans, on va essayer de monter de vivre cette aventure tous ensemble, de voir si on arrive à trouver suffisamment de joueurs, à mettre une structure en place, à trouver des financements. Si on n'y arrive pas, parce qu'on va pas mettre en péril, ça c'est on a été clair depuis le départ, on va pas mettre en péril l'association de 300 personnes pour une section, ça c'est sûr qu'on le fera pas, mais on se devait d'essayer, donc voilà, on essaye, et puis on fera le bilan à un moment donné, quoi.
Pour terminer sur le foot amputé, deux choses. La première, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les règles, grosso modo, sur quelle taille de terrain ça se joue, combien de joueurs sur le terrain?
Grossièrement, c'est foot à 8, en fait. C'est d'accord, un terrain de 60 mètres par 40, c'est des petits buts, normalement c'est même des buts un petit peu plus petits que foot à 8, mais on peut s'adapter sur des foot à 8, voilà, un arbitre, 6 joueurs de champ, un gardien. Donc les joueurs, ils doivent être obligatoirement ils ont un membre en moins, un membre inférieur en moins, et le gardien doit avoir soit un membre supérieur en moins, soit un problème, une malformation ou autre, enfin un handicap sur un membre supérieur, et auquel cas il lui attache un bras.
Ah oui, pour que le gardien n'ait qu'un bras.
Une main, voilà.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une personne de la communication au club pour justement aller chercher de l'argent?
On essaye en fait, oui, on était deux ou trois à... On a sollicité des grandes entreprises, des fondations. J'ai fait tout ce travail. En fait, ce travail, il s'est fait là sur le début d'année. Quand on a commencé l'an passé, c'était déjà trop tard. Donc, on a commencé là. On a fait toutes les demandes entre janvier et mars, là, à peu près, de subventions ANS, conseil régional, conseil départemental. Et puis, je vous dis, les fondations handisport, en sachant qu'il n'y a pas de fédération française de foot handi. Donc, c'est compliqué, quoi.
Ah oui, c'est rattaché à la 3F, du coup?
C'est rattaché en fait à la Fédération française de handisport, simplement. Pas
oui,
de foot. Okay.
Ah oui, c'est vraiment quelque chose d'hyper général dans ce cas-là.
Ouais, exactement.
Et combien de clubs en France à peu près? Tu parlais tout à l'heure d'un club sur Paris, et d'un club à Annecy et d'un club à Marseille. Il y en a d'autres?
Oui, il y en a un quatrième à côté de Nantes, Bouaille, le FC Bouaille. Voilà.
Voilà, ça pourrait faire un derby de l'Ouest.
De l'Atlantique, de l'Ouest, c'est ça.
On peut rappeler les heures des matchs?
Oui, alors samedi 8 avril, donc le premier match sera à 10h, le second match à 15h30 et le dernier match à 20h30.
Vous connaissez les équipes, on peut les peut-être...
Oui, alors le premier match à 10h, c'est l'ES Cernex contre l'Olympique Jouy-le-Moutier. Le deuxième à 15h30, c'est l'ES Cernex contre Andoum. Et le troisième à 20h30, c'est Andoum contre l'Olympique Jouy-le-Moutier. On a juste une toute petite incertitude aujourd'hui sur le club d'Andoum, qui pour des raisons financières ne s'est pas encore prononcé officiellement s'il allait pouvoir venir. Donc on croise les doigts.
On les croise pour vous aussi. On parle d'Andoum Catalan, c'est le même club que l'équipe qui était en N2 il y a un an ou deux, ou c'est...
Je sais pas répondre à cette question. C'est moi je
ils
sais
que c'est Andoum de mémoire. En espérant que tout le monde soit là, histoire que le plateau soit complet.
Oui, ça serait top parce qu'en plus on a invité des le club de Jarnac, le club de Leroy, le club de Mornac et nos petits U9 à nous pour faire une petite un petit plateau entre le match de 15h30 et le match de 20h30. Donc ça serait bien ouais que ça serait bien, j'espère que tout le monde sera là quoi.
Donc on vient voir du foot amputé et puis on a aussi un plateau entre les matchs pour nous occuper et puis j'imagine aussi qu'il y aura tout ce qui est buvette pour
oui, bien sûr.
Pour se substituer et patienter entre les matchs.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus des manifestations style un tournoi un barbecue, que sais-je encore?
Oui, mais il y a le traditionnel tournoi des As en fait de fin de saison, les 9, 10 et 11 juin. Donc c'est un tournoi qui a 10 ans maintenant qui commence à être un petit peu réputé parce que on a des équipes souvent qui viennent de la région bordelaise, on avait des amis qui venaient de Saumur tous les ans. Là cette année l'éducateur a changé en U13 donc ils viendront pas. Mais on a des équipes de Limoges, de Poitiers, de Bordeaux qui viennent régulièrement maintenant. Donc on a souvent des tournois U11 et U13 de qualité et on a le tournoi U15 le vendredi soir en semi-nocturne vu que c'est il commence à 18h, sortie d'école, c'est surtout des locaux hein, des clubs du coin.
Merci de votre fidélité. Christian et Dédé sont là pour poser des questions à notre invité Hervé Amonique. Messieurs, je vous laisse la main.
Oui, donc pour continuer sur les tournois, ça fait du coup un tournoi sur grand terrain et puis les autres tournois sur terrain plus réduit. Donc c'est sympa ça. Par contre, ça doit demander tout ce qui est niveau terrain, ça doit demander de l'organisation.
On fait tout sur le même tournoi sur le même terrain de Vosgelines et même le d'accord. Foot les U15 on les fait jouer sur petit terrain. On fait des voilà.
Ah oui, c'est, d'accord, ok.
Ouais, sinon ça serait compliqué sur une soirée de faire un tournoi sur un seul terrain, sur un seul grand terrain en fait, foot à 11. Donc on a pris le parti de continuer à les faire jouer sur foot à 8 une saison de plus en fait, juste pour le tournoi.
Y a-t-il un repas de fin de saison?
Oui, alors on envisage de faire comme on fait tous les ans à la fin de la dernière journée de championnat. On attend l'équipe qui est à l'extérieur et puis on se fait une petite soirée entre tous ensemble. Donc ça c'est sûr, ça sera refait et le 23 juin on fera aussi notre assemblée générale et après l'assemblée générale on fait aussi un repas avec les dirigeants et les éducateurs. Donc ça varie, un coup c'est chez un partenaire, un sponsor ou alors au club house, ça dépend. Donc on n'a pas encore arrêté ce qu'on ferait mais tous les ans oui, on fait ça également.
À titre personnel, j'ai vu ton interview lundi soir sur la LFNA TV, pardon. Donc, ah oui. Là, en gros, c'est l'émission qui est diffusée tous les lundis par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, Philippe Mathieu arrête la présidence.
Oui. Philippe va arrêter. Alors, c'est pour des raisons perso. Il a lancé une nouvelle activité professionnelle qui lui prend beaucoup de temps. Donc, il m'a demandé de prendre la suite. Voilà, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai accepté parce qu'en fait, on a lancé beaucoup de choses d'action au niveau des jeunes et puis ça m'embêtait de laisser. Donc oui, je vais prendre la suite. Et je vais prendre la suite avec Jean-Philippe Michaud en fait.
Je vais proposer... deux des vice-présidentes vont devenir co-présidents.
Exactement, parce qu'en fait ça prend quand même beaucoup de temps. On a tous notre travail, on a notre famille. Je me suis aussi investi dans le lycée au district sur la commission des jeunes. Donc plutôt que de faire beaucoup et pas bien, j'ai préféré faire... Voilà, scindé, Bible aura toute la partie manifestation extra-sportive et sponsoring, et moi toute la partie sportive à gérer.
D'accord, donc finalement une passation de pouvoir dans la continuité, est-ce qu'il y a quand même malgré tout des nouveaux projets qui sont à l'étude pour la saison prochaine ou pour les saisons à venir?
Non, je pense qu'il n'y a pas de vrai gros projet, gros changement, parce qu'en fait, ça fait 2-3 ans qu'on met beaucoup de choses en place, on a embauché un RTJ, Romain Tardieu.
Oui, responsable technique jeune, on
rappelle. Excuse-moi, responsable technique jeune, effectivement. On travaille avec nos équipes jeunes pour leur donner la bonne formation et puis à partir d'une planification, une politique sportive. Donc les choses, elles sont mises en place et c'est pour ça que je voulais pas que... Voilà, je voulais que continuer parce que je pense qu'on est sur la bonne voie en termes de formation. On le vérifie depuis 2-3 ans à travers les résultats qu'on peut avoir sur le foot à 11. Voilà, maintenant il faut que ce travail il soit fait dans la continuité et qu'il nous apporte quelque chose au niveau des équipes seniors dans les 2-3 années à venir.
Oui, c'est vrai, d'autant plus que lorsqu'on parle de formation, tout ce que l'on met en place et les fruits qu'on récolte, on les récolte pas tout de suite, c'est des choses qui sont sur du moyen à long terme, donc Donc c'est aussi normal de entre guillemets de surveiller le processus jusqu'à pouvoir en tirer les premiers fruits.
Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. À chacun sa politique. Certains préfèrent recruter à droite à gauche. Nous on préfère former et puis faire voir un garçon qui s'émancipe et qui s'épanouit dans notre club et qui finit par nous apporter quelque chose en équipe senior.
En parlant des jeunes, c'est une question que j'avais pas posée tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des joueurs de la A ou de la B qui sont coach chez les jeunes aussi? Ce qui permet potentiellement d'avoir du lien entre les seniors et les jeunes.
Alors j'ai des joueurs qui étaient éducateurs effectivement et qui sont un peu moins, mais par contre c'est des garçons qui ont arrêté pour souvent des raisons professionnelles, mais par contre qui sont là pour s'il y a besoin d'aller arbitrer des jeunes le samedi matin ou le samedi après-midi, qui se rendent disponibles. On a ça. Par contre on a aussi des éducateurs, des garçons qui sont en U17 et qui sont éducateurs en U10 U11.
D'accord.
Ils ont, oui. Ils ont commencé à passer leur diplôme et sur la fin de saison on... Ben, pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé un message aux éducateurs en leur disant que tous les garçons qui souhaitaient commencer à s'investir, à découvrir le rôle d'éducateur, eh ben, ils seraient les bienvenus sur la fin de saison pour pouvoir s'ils souhaitaient s'investir pleinement la saison prochaine. Donc voilà.
Ça c'est bien, ça c'est très bien. Bonne initiative. Merci. Et en ce qui concerne l'arbitrage,
oui.
Vous avez un certain nombre d'arbitres.
Oui, on les a. On a des garçons qui sont comme Hervé Zago, qui est référent district en plus, qui est arbitre chez nous depuis quelques années maintenant. Guillaume Marcombe, qui est également arbitre chez nous. On a 4 arbitres qui sont chez nous depuis quelques années déjà. Voilà. Donc après, c'est Hervé Zago vraiment qui gère cette partie-là. C'est lui qui vient rencontrer nos jeunes en début de saison, déjà un pour leur donner les modifications, les nouvelles règles du jeu. Et il se met aussi à leur disposition, à la disposition des jeunes qui veulent essayer l'arbitrage. C'est des garçons que, au cours de notre tournoi, des fois on essaie de faire arbitrer aussi, par exemple, pour leur faire découvrir. Voilà.
Non. Oui, ça peut susciter quelques vocations.
Exactement. Sur les groupes 14-15, il est venu les rencontrer là, cette année, Hervé, et il y a un garçon, par exemple, qui a commencé à faire la formation. Donc c'est très bien.
D'accord. Est-ce que chez les jeunes, on peut potentiellement jouer et être arbitre en même temps?
C'est quand même
compliqué au niveau des désignations.
C'est possible parce que l'idée d'un côté comme de l'autre, c'est de pas priver l'enfant. Si l'enfant il a envie de jouer au foot et faire l'arbitre en plus, il faut juste s'entendre avec les personnes qui sont en charge de l'arbitrage pour leur dire, il joue tel jour à telle heure. Essayons de faire en sorte qu'il arbitre le matin ou le lendemain. Et voilà. Mmh. Donc ça se fait en bonne intelligence. Il y a pas de souci.
Oui, parce que l'arbitrage est hyper important. Hein. Sans arbitre, y a pas de match de football.
Et oui, c'est clair.
On le voit en district, notamment pas mal d'arbitres font le samedi soir et le dimanche après-midi. Donc c'est vrai que même si Gilles Roufignol me disait que c'était mieux en termes de club qui était en infraction par rapport à l'arbitrage, c'est quand même hyper important d'avoir des arbitres.
Oui. Après, eux comme nous, je pense qu'ils ont payé aussi la période Covid. Les gens, ils ont pris l'habitude de faire autre chose pendant 2-3 ans, la famille ou d'autres activités. Et je pense que ils ont eu une vague de départ suite à cette maladie, cette période-là en tous les cas.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de redresser la barre et ils travaillent bien pour retrouver du monde. Ouais.
D'ailleurs, on parlait de 300 licenciés, Arwell, environ. C'est plus ou c'est moins par rapport à l'avant-Covid?
C'est moins. C'est moins, on était monté jusqu'à 350, mais c'était pas bien. En fait, 350, c'était trop.
Oui.
Du fait de nos infrastructures, c'est trop compliqué à gérer, c'est trop source de problèmes. Et comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux faire des fois un petit peu moins, mais bien que trop et à moitié, quoi.
Donc là, finalement, 280 joueurs et une trentaine de dirigeants, vous avez vraiment trouvé votre rythme de croisière.
Ben, on est bien parce que ça nous permet d'avoir une équipe par catégorie. Donc c'est bien. Et c'est là où je vous dis, contrairement à avant, on bloque, par exemple, sur le foot à 11, on bloque à 18, 20 joueurs vraiment grand maximum, quoi. On peut en faire jouer 14, c'est pas la peine d'avoir plus de 18, 20 joueurs. Sur le foot à 8, c'est pareil. Si on a deux équipes de foot à 8, 8 et 8, 16, plus les remplaçants, on bloque à 3-4 joueurs de plus. On cherche pas à faire du nombre, quoi.
Oui, parce qu'au final, ça apporterait beaucoup de frustration à les enfants qui seraient pas convoqués. Et c'est vrai que la finalité quand même d'un enfant, quel que soit son niveau, c'est de jouer sur le terrain.
Surtout à cet âge-là. Surtout à cet âge-là, quand c'est foot à 8, faut que les gamins ils tapent dans le ballon, qu'ils jouent, et puis qu'ils aillent les copains le samedi, c'est sûr.
Pour revenir sur l'équipe Fagnon. Oui. Puisqu'on arrive pratiquement au terme de l'émission, comment vous vous organisez, enfin pas vous président, oui, mais ou vice-président, mais les coachs se réunissent et pour faire la formation de l'équipe senior ABC.
Oui. Ils avaient mis en place tous les jeudis soirs une petite demi-heure ensemble pour définir les groupes. Généralement, ils s'arrêtaient sur des groupes, ils savaient à 80-90%, à deux éléments près, c'était bouclé le jeudi soir. Et après, c'était au terme du dernier entraînement d'équipe première que la décision était prise, parce que il lui arrivait de faire des entraînements le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, c'était acté pour le samedi soir. Mais oui, il y a une très bonne communication entre eux, les trois. Après, les trois sont au club depuis des années, se connaissent par cœur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas d'équipe qui tire la couverture. Aujourd'hui, on sait que la priorité, c'est l'équipe première. Il y a 2-3 ans, on a vécu le système inverse où c'était la B qui était en difficulté. Et bien, on faisait des efforts sur l'équipe B. Voilà, c'est en bonne intelligence et c'est dans l'intérêt du club à chaque fois.
Il y a bien à Ruel, c'est que vous êtes là depuis des années. Donc, évidemment, c'est peut-être beaucoup plus simple que si, évidemment, il y a un turnover important chaque année.
Oui, c'est peut-être plus simple, mais après, c'est aussi notre choix de travailler avec des gens qui connaissent déjà le club. On a rarement fait le choix de prendre des gens de l'extérieur. Alors, il y en a qui nous disent que c'est pas forcément bien, que ça ferait peut-être du bien d'avoir un avis extérieur. Aujourd'hui, depuis des années, ça a plutôt pas si mal fonctionné que ça avec des gens qui sont déjà au club depuis longtemps. On a tous la même philosophie, on se connaît tous, on est copains. Copains, ça permet de voir même un peu plus. Et des fois, ça permet peut-être de se dire les choses et d'accepter que l'autre dit certaines choses et de travailler en tenant compte de ça, quoi.
Prochain match, c'est contre qui à domicile?
C'est nos amis de Vindel, nos voisins, dimanche.
Ah, bon, alors.
Ouais. On va à l'extérieur, comme je vous disais, si on ramène un point, ça sera déjà bien. Prenons des points à l'extérieur et gagnons à domicile, et puis on verra la fin.
Vindel sont juste derrière vous?
Non, devant.
Devant, excusez-moi.
Ouais, ils sont
4-5 points devant, je crois.
Ouais, ils sont, ouais, 5 points, je dirais, ouais. Non, ils commencent à être bien.
Et c'est une équipe qui est performante à domicile, donc la tâche s'annonce forcément compliquée.
Oui, et puis c'est beaucoup de joueurs qu'on connaît très bien.
Notamment Louis Faure qui est passé par là.
Oui, bien sûr, Louis Faure.
Et moi, bien m'étonne sûr. Par son nombre de buts, parce que je l'ai connu en tant que défenseur central à la CFC, donc le voir marquer plus de débuts dans la saison, ça m'a étonné.
Moi, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, le niveau R3, c'est trop facile pour lui, en vrai. Donc,
d'accord.
C'est juste ça.
Parfait, Hervé. Nous arrivons au terme de cette émission. Un mot avant que vous nous quittiez, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaiteriez revenir, ou est-ce qu'il y a des questions qu'on vous a pas posées?
Non, je voulais juste vous signaler une petite chose, c'est que nos jeunes U13, à travers une action PEF qui avait été lancée par la Fédération Française de Football, avaient été sélectionnés pour aller voir le match France-Pays-Bas et faire le challenge des tirs au but à la mi-temps. Et malheureusement, ils n'ont pas pu y aller parce que il y avait la grève des trains. Donc bon, ça voilà, c'est un fait de société, je vais pas m'étaler dessus. Par contre, Orange nous a recontacté et nous a dit qu'il nous invitait pour le France-Grèce du 19 juin. Donc on aura des petits Ruellois à la mi-temps du match qui iront tirer dans les buts du Stade de France.
C'est bien.
Voilà. Donc voilà, quand je vous dis qu'on essaie de mettre des actions en place pour les jeunes, et voilà, c'est, on est content quand on est récompensé sur des belles actions comme ça.
Ça leur fera un joli souvenir à ces enfants.
Ouais, je pense.
Parfait, Hervé. Donc, on va vous souhaiter le meilleur. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir qu'on accueille l'Olympique de Ruel sur notre antenne. Nos amitiés à Philippe Mathieu, donc, qui a été un interlocuteur de qualité et qui est resté longtemps en lien avec nous. On vous souhaite, vous, Hervé, donc, de prendre la suite et tout le bonheur possible à ce niveau-là. On sait que Ruel, c'est un club formateur, donc, qui fait beaucoup pour les jeunes, pour l'encadrement, pour le club aussi, avec 250 licenciés. J'espère ne pas me tromper. On vous dit donc à très bientôt. Merci encore d'être venu. Au revoir.
Merci à toi, Didier. Merci à toute l'équipe. Au revoir.
Merci.